9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
Bonjour Aïssa Maïga.
Bonjour Philippe Vandel.
Vous êtes comédienne, on vous a vu dans Les Poupées Russes de Clapiche, L'écume des jours de Gondry, Le marsupilami d'Alain Chabat, Caché de Michael Haneke, rien que ça, Il a déjà tes yeux, c'était une comédie avec Lucien Jean-Baptiste, plus une carrière à l'international avec Chiwetel et Gioffre. Mais là, votre actualité, c'est Regard Noir, un documentaire qui passe ce soir à 22h45 sur Canal+, évidemment quand on veut sur MyCanal. C'est co-réalisé par vous et Isabelle Simeoni. Je m'en voudrais de ne pas la citer. C'est un documentaire sur la représentation des Noirs au cinéma. C'est également un road movie. Vous avez beaucoup voyagé. Avant qu'on raconte le film, je voudrais qu'on entende un témoignage. C'est une comédienne française. Elle s'appelle Sabine Pacora et elle raconte une expérience ordinaire de casting.
Une fois, j'arrive sur un casting et tout, puis on me dit « on cherche pas de noir ».
Bon, j'ai mis un matin.
Je suis comédienne. Et voilà, il n'y a pas eu de suite, quoi. On ne cherche pas de noir. Bon, je savais pas que noir, c'était un rôle. Je savais pas que c'était... Enfin bon, voilà.
Vous l'avez déjà vécu, ça ?
Ah mais je pense qu'on l'a à peu près toutes vécu. Oui, oui, c'est... Après, il y a l'éloquence de Sabine Pacora qui arrive à mettre ça en mots et à nous faire ressentir immédiatement ce qu'elle a pu ressentir elle-même à ce moment-là.
Je vais vous dire, c'est la 24e seconde du documentaire et ça m'a fait un choc. C'est un road movie, vous êtes allé à Los Angeles, à New York, à Rio. Qui avez-vous rencontré et pourquoi ? Des gros noms d'abord.
Oui, alors d'abord on a tenu à ce que les actrices qui ont fait partie du livre « Noir n'est pas mon métier » fassent partie de l'aventure, donc on est 13, 13 à table.
On retrouve par exemple Nadège Bossondiane qui était hier à ce micro.
Qui était là, que je salue, qui sera ce soir à 21h sur France 2 dans Rire contre le racisme. Et il y a, je peux les citer toutes, j'ai le temps ou pas ?
13, vous n'avez pas le temps.
Ok. Bon,
D'autant que j'aurais parlé de Ryan Coogler et son film féministe Black Panther, Ava DuVernay, que vous présentez aux États-Unis comme une game changer. C'est quoi une game changer ?
Game changer, c'est quelqu'un qui change le game, quelqu'un qui change le jeu. En fait, il y a chez cette femme, Ava DuVernay, qui est réalisatrice, qui a réalisé Dans leur regard, qu'on peut voir sur Netflix, qui a réalisé Selma sur Martin Luther King. Il y a chez cette femme, au-delà de la réalisatrice, l'envie de changer les règles du jeu pour provoquer de l'égalité, provoquer une ouverture aux opportunités pour tous. Et c'est une femme extrêmement inspirante. Et elle nous a fait, n'ayons pas peur des mots, l'honneur d'accepter d'être dans le film. Et elle apporte un éclairage à la fois afro-américain, mais aussi féministe.
Il y a aussi une star brésilienne qui s'appelle Thaïssa Rojo. Des Françaises, il y a Sonia Roland, il y a aussi Firmine Richard, Adèle Haenel, je ne peux pas citer tout le monde. Apparaît dès le début de ce documentaire une interrogation très profonde. Est-ce que le racisme est seulement une question morale, le bien contre le mal, ou est-ce qu'il est physiquement incrusté dans nos neurones ? Ça va loin comme question, et vous, qu'en pensez-vous ? Qu'en pensiez-vous avant de faire ce reportage et ensuite ?
Étant française et ayant été élevée dans le creuset universaliste et dans une certaine vision morale de ce qu'est l'égalité, de ce qu'est le racisme, etc., j'avais un focus... Vraiment figé là-dessus. Et ce film, il nous a permis, en rencontrant Alexis McGill-Johnson, qui est une femme qui est à la croisée des sciences sociales et des neurosciences, il nous a permis, avec Isabelle Simeoni, d'explorer. Alors, c'est pas un film là-dessus, hein, donc c'est vraiment un avant-goût, je dirais, d'explorer cet autre versant du racisme qui est incrusté dans nos neurones, c'est à la fois la question culturelle et la question physiologique.
Ouais.
Et c'est très intéressant de le prendre par ce biais-là, parce que justement, on parle de biais culturels, de biais qui font qu'on perçoit la réalité et qu'on perçoit l'autre à travers des schémas, à travers des stéréotypes. Mais ça peut se défaire. C'est ça la bonne nouvelle.
Exactement. Sur les castings, il y a un autre problème. C'est la couleur de peau quand on n'est ni blanc ni noir, quand on est métisse. C'est l'actrice Magagia Cyberfell qui raconte. Elle sait de quoi elle parle. Elle est métisse et elle galère pour trouver des rôles qui lui correspondent.
C'est jamais la bonne couleur, en fait. Soit il faut être noir foncé, soit il faut être blanc. Mais quand on est métisse, en fait, il y a une métisse plus connue. Enfin, ça va jamais, quoi. Et parfois, ouais, plusieurs fois, je me dis, oh, j'aurais bien aimé être noir. Au moins, il y a des castings, c'est noir, quoi.
Et alors, j'ai appris un mot grâce à vous, le whitewashing. Qu'est-ce que c'est que le whitewashing ?
C'est le fait de délaver des personnages qui, à l'origine, ne sont pas blancs. Alors, ça peut être l'exemple d'Alexandre Dumas, comme on le dit dans le film.
Qui était
Alexandre Dumas, qui était métisse. Et quand on lit les livres d'histoire, c'est présent quasiment nulle part. Alors, c'est un phénomène qu'on retrouve dans des pays où...
Il faut aller au bout de la chose. C'est que ça a choqué beaucoup de gens qu'Alexandre Dumas, qui était métisse, a été joué par Depardieu.
Oui, tout à fait. Blanc. Ce qui en soi, pourquoi pas, pourquoi
Cléopâtre,
pas
parce qui était une reine noire.
Absolument. Ce qui est frappant, c'est que des personnages noirs peuvent être joués par des blancs, mais pas l'inverse. Le problème, c'est pas tant que j'ai Gérard Depardieu qui l'interprète Alexandre Dumas. Le problème, c'est qu'on dénie la possibilité aux personnes non blanches, aux interprètes non blancs, de jouer tout type de rôle. Et donc, cette question de l'universalité, elle est un peu à sens unique. Et l'objet du film, c'est d'ouvrir au-delà de cette perception-là.
Vous parlez de l'ouverture, il n'y a pas que des constats terrifiants, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles dans ce documentaire. Justement, on en parle. Ça s'appelle Regard Noir. Aïssa Maïga est avec nous. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
C'est un documentaire qui passe ce soir à 22h45 sur Canal+, et évidemment quand on veut sur MyCanal, Regard Noir, co-réalisé par Isabelle Simeoni et Aïssa Maïga, qui est notre invitée. Il y a des bonnes nouvelles dans ce documentaire, ce qui est en train de faire bouger les lignes. C'est pas seulement la conscience politique. On parlait de la place des Noirs et des comédiennes noires spécifiquement sur les écrans. C'est également le business, l'argent. Tout a changé, expliquez-vous, avec l'arrivée des plateformes qui ne sont plus dirigées comme des chaînes de télé à l'ancienne par des Blancs qui ont tous fait les mêmes études. Écoutez ce que dit la directrice de casting américaine Sharon Bialy.
Ce qui compte à Hollywood, c'est l'argent. Et les studios et les producteurs ont compris qu'engager des gens issus de la diversité allait attirer au niveau international un public également issu de la diversité. La pression est venue d'en haut et d'en bas. Les studios ont fait pression sur les scénaristes et les producteurs en disant « il faut un Afro-Américain ou il faut un Latino ». Et nous aussi, nous avons fait pression.
C'est une bonne nouvelle.
Oui, c'est une bonne nouvelle.
C'est
parce
un peu cynique
ça...
de se dire que c'est dirigé par l'argent,
voilà,
mais c'est aussi une bonne nouvelle.
Voilà. On aimerait que ça vienne du cœur et de l'esprit et que ça se transforme en acte de façon totalement désintéressée aussi. Mais c'est important quand même de voir que les plateformes, elles ont ouvert les imaginaires parce que du coup, ça a permis à d'autres auteurs d'émerger, d'autres cinéastes, mais aussi d'autres interprètes dans tous les territoires quasiment.
Quand Netflix choisit Omar Sy pour incarner Arsène Lupin, ça fait un carton dans le monde. Netflix n'est pas subventionné. Pourquoi il y a si peu de personnes de production qui font ce genre de choses en France? Vous regrettez dans le documentaire qu'il n'y a pas de films ou très peu de films français qui racontent la colonisation, qui racontent la guerre d'Algérie, qui racontent l'histoire de l'esclavage. C'est libre, le cinéma en France. Pourquoi il n'y a pas de producteurs qui s'engagent sur ces sujets-là?
Mais il y a plein de projets qui ont essayé d'être montés. Il y a plein de producteurs qui ont essayé de monter ces projets-là, mais ils n'ont jamais trouvé les financements. Parce que ce n'était jamais le bon moment, parce qu'on pensait que ça pouvait diviser, ou alors que le public n'était pas prêt. Il y a toujours une bonne raison. Et d'un seul coup, ça arrive par d'autres médias et on se rend compte que le public est là, et que ça marche.
Vous dites que la donne a changé, que le film « Tout ce qui brille ».
Oui, ça c'était d'abord la fraîcheur. Géraldine Nakache, Leïla Bekti, pardon, mais comment leur résister?
Je vous cite dans une interview deux actrices inconnues à l'époque, l'une arabe, l'autre juive.
Oui, c'est comme ça qu'elles sont apparues. Et il y avait une espèce d'évidence, de grâce. On a ri avec elles, on a pleuré avec elles. Et c'était un, entre guillemets, petit film fait par une jeune actrice qui s'appelle Géraldine Nakache. Et ça a fait un carton. Et je pense vraiment que ça a ouvert une voie.
Alors, vous avez également rencontré la militante Rokhaya Diallo. Elle trouve qu'il y a des progrès, mais elle dit que les rôles de noirs sont toujours stéréotypés. On peut ne pas être d'accord avec elle.
L'imaginaire colonial, l'imaginaire esclavagiste a vraiment construit les personnes noires comme étant des corps sauvages et des corps à la fois puissants, mais à la fois dangereux parce que non maîtrisés. Et c'est vrai, quand on pense au passé, on pense aux noirs cannibales. C'est un imaginaire qui est aussi réactivé aujourd'hui par la figure notamment du jeune garçon de banlieue. Et pour neutraliser cette figure-là, en fait, on a l'impression qu'un corps noir doit se montrer à la fois docile, divertissant et de nature non menaçante. Et c'est vrai que le noir, étant un grand enfant, étant la figure du bon sauvage, étant une personne un petit peu limitée intellectuellement, mais qui fait toujours rire, qui est toujours de bonne humeur, d'une certaine manière, l'exposer essentiellement dans des comédies, ça permet d'atténuer ce registre du sauvage qui pourrait se montrer incontrôlable.
C'est très dur comme constat, est-ce que vous le partagez?
Mais c'est un constat qui repose sur des faits historiques. Le meilleur exemple, c'est pas le meilleur exemple, mais le meilleur symbole, c'est le noir Banania. Cet homme qu'on a dominé par la colonisation, dont on a exploité les richesses, dont on a exploité les ressources, et qu'on fait passer pour quelqu'un qui n'a pas de cerveau.
C'est l'histoire, le noir bananier. Mais on n'a pas dépassé ce stade-là.
Alors, on a encore, malheureusement, mais je pense qu'on est à un tournant historique. On a une possibilité de changer les choses qui n'a pas été là jusqu'à maintenant. C'est que jusque-là, on était encore enfermés dans l'héritage de cette imagerie-là.
L'an passé, vous avez suscité la polémique Aïssa Maïga lors de la soirée des Césars. Sur scène, vous avez dit « Je ne peux pas m'empêcher de compter le nombre de Noirs dans la salle. » Tollé sur les réseaux sociaux, y compris de la part des antiracistes. Le philosophe Michel Onfray vous a comparé à Marine Le Pen. D'autres ont relevé que les nazis comptaient les Juifs. Même Jeune Afrique a critiqué cette prise de parole. Vous dites que vos propos ont mal été interprétés, c'est-à-dire...
D'abord, je tiens à dire...
De manière très courte.
De manière très courte, que ce que vous oubliez de dire là, c'est la formidable vague de soutien que j'ai reçue dans la presse, dans les réseaux sociaux et parmi des personnalités. Et des gens ont entendu ce que je voulais dire. Il y a une sorte d'immobilisme, notamment de la part des décideurs dans nos métiers. Et si ces décideurs aujourd'hui faisaient leur travail, c'est-à-dire de dire « Ok, dans mon entreprise, je vois qu'il y a une monochromie. Ça n'est pas possible que ça ressemble à l'égalité qu'on prône. Et donc, je prends mes responsabilités. » C'est ça que j'ai voulu pointer du doigt. Et c'était une invitation pour que ces mêmes décideurs se disent qu'ils ont un rôle à jouer.
Et c'est même une invitation que je vous fais parce que vous avez aussi parlé des statistiques ethniques. Oui. Un sujet qui divise de la droite à la gauche. Oui. Sujet absolument passionnant. Merci d'avoir été avec nous, Aïssa Maïga. Je le rappelle, le documentaire Regard Noir, c'est ce soir, 22h45 sur Canal+, et aussi sur MyCanal. Culture Média continue, évidemment. Il y aura le rappel des titres. Il y aura Eva Rock, il y aura Bertrand Chameroy. Et notre invité, c'est l'artiste peintre Gérard Garouste qui nous présente vraiment peindre un livre autobiographique où il raconte des histoires totalement hallucinantes. Et puis dans les indispensables, deux films césarisés, tiens justement, et puis une nouvelle série danoise. Il y a des Danois dans votre doc. À tout de suite.
Europe 1, Culture Média.
Je ne sais pas combien d'heures j'ai passé à regarder des séries. Et vous d'ailleurs. Vous êtes férus de séries, vous ne savez plus quoi regarder, vous voulez tout savoir sur l'envers du décor. Vous adorez simplement qu'on vous raconte des histoires.
Découvrez Sériland, le podcast d'Europe 1 Studio présenté par Eva Rock.
Sériland, c'est le podcast qui vous conseille les meilleures séries du moment. Vous pouvez le retrouver sur Apple Podcasts, Deezer ou sur votre plateforme habituelle d'écoute.